7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pouvons-nous comprendre les Japonais? Ils sont déroutants, ils aiment les robots et la spiritualité, l'ordre, la discipline et la créativité. Ils sont pessimistes mais courageux. Alors on va essayer de comprendre quelle est leur conception du travail, de la famille, de la place des femmes dans la société, dans l'un des pays au monde où l'on fait le moins d'enfants. Moins d'un enfant et demi par femme contre 5 en Afrique. D'ici 25 ans, le pays aura perdu près de 27 millions d'habitants sans réelle politique d'accueil de migrants, quoique c'est en train de changer. On en parlera avec l'actualité. C'est l'occasion aussi de poser toutes vos questions. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Nos invités dans le studio, Raphaël Languillon-Aucel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe spécialiste du Japon à l'université de Genève en Suisse et vous publiez Japonais, ligne de vie d'un peuple aux ateliers Henri Dougier. Laurent Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez réalisé un documentaire, Le Japon vu du ciel, qui a été diffusé sur la chaîne Arte. Et vous publiez Au cœur du Japon aux éditions du Chêne, Visages et paysages du Japon. Vous nous expliquerez d'ailleurs comment le paysage fait partie de l'âme japonaise, plus probablement que dans d'autres pays. Nous serons aussi en ligne avec Amin Abbès, un youtubeur français qui vit à Tokyo et qui a lancé sa chaîne Japania pour tous les curieux de la vie quotidienne au Japon. Alors peut-on comprendre les Japonais? Les Français aiment poser et répondre à cette question, y compris quand ils n'y connaissent rien, comme pour se rassurer peut-être sur leur propre identité, souvent supposée à l'opposé de celle de cet Extrême-Orient où le soleil renaît chaque jour, mais à quel prix?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Et là, le nouveau fléau, c'est le présentéisme, qui est le fait de rester sur son lieu de travail le plus tard possible et de bosser à fond. La plupart des salariés japonais prennent par an 15 jours de congé parce qu'au-delà, le fait que leurs collègues travaillent à leur place les culpabilise. On ne pourra jamais comprendre ces gens-là. Mais là-bas, le fait de ne pas quitter son lieu de travail avant d'être clamsé est considéré comme de la loyauté. Eh bien, figurez-vous qu'en avril prochain, le pays lance un drone, le T-Friend, qui est très petit. Le soir venu, il se met en route, il rôde dans l'entreprise et dès qu'il aperçoit un salarié en train de bûcher, c'est véridique, il lui tourne autour en lui envoyant dans les tympans la chanson « Old Long Sign ». En français, ce n'est qu'un au revoir. Donc là, le salarié japonais se dit « Tu t'en fous, continue à bosser. Si tu meurs d'épuisement mais que tu finis ce document Excel, l'honneur rejaillira sur ta famille pour une durée de 400 ans. » Seulement, c'est comme tout. Quand ça ne s'arrête plus, on se lasse. Ce n'est qu'un au revoir diffusé 20 fois, la 21e, on craque. Le salarié japonais éreinté rentrera chez lui, puis au bout de 10 minutes se dira « Je suis pas en train de travailler, je profite du système, la faillite de l'État c'est de ma faute, ainsi que la pluie prévue demain et les hémorroïdes de l'empereur, et donc se suicidera. » Il y a donc au Japon un drone chargé de foutre les gens dehors et il sera équipé d'une caméra permettant la reconnaissance faciale afin d'identifier les intrus. En France, l'équivalent du drone japonais, ça s'appelle la grosse grosse flemme. Hein, d'ailleurs, ça marche très bien sur moi. Regardez, hop, je quitte mon travail. Au revoir.
C'est extraordinaire comme parler des Japonais, ça déclenche assez facilement l'hilarité des Français. Morceau choisi de la chronique sketch de Tanguy Pastureau il y a exactement un an sur France Inter dans l'émission La Bande Originale. Alors peut-on comprendre les Japonais? Une réponse d'un auditeur au Congo Brazzaville nous dit il ne faut pas chercher à les comprendre, il faut les accepter. Raphaël Languillon-Aucel, est-ce qu'on a mis les deux pieds on a sauté les deux pieds joints dans la flaque des lieux communs sur les Japonais, dans ce qu'on a entendu?
Oui, un petit peu effectivement, mais bon, c'est un peu le principe de l'humour, de grossir un peu les traits et puis de rire. Alors, soit on rit ensemble, soit on rit contre. Là, pour le coup, on riait un peu contre, effectivement. Alors, bon, Des clichés sur les Japonais, il y en a beaucoup, parce que c'est un peuple d'abord exotique pour nous. C'est un peuple également qui construit ses propres clichés et qui les exporte. Alors, il faut faire attention de ne pas trop y prendre garde et puis d'aller un peu au-delà. Et la meilleure façon d'aller au-delà, c'est d'aller les rencontrer soi-même et puis d'entamer le dialogue et de regarder ce qui se passe en face, la réaction, la façon dont on parle, la façon dont on bouge, la façon dont on s'exprime, et puis surtout les lieux qui apprennent au moins autant sur la personne qui parle que ce qu'elle nous dit elle-même.
Ouais. Donc, exactement. Et d'ailleurs, tous les deux, Laurent Martin et Raphaël Languillon-Haussen, vous avez fait la démarche, l'un et l'autre dans votre travail, d'aller à la rencontre d'une société loin de la capitale, Tokyo, Laurent Martin.
Oui, en effet, dans le cadre de la série documentaire Le Japon vu du ciel, dont le livre est extrait, on s'est aventuré effectivement plutôt dans un Japon pas mégalopolitain, mais plutôt des campagnes. Et effectivement, je pense que le contact est paradoxalement, je ne sais pas si c'est tellement paradoxal, mais plus simple. Je pense que les urbains en France, comme au Japon, sont plus compliqués, sont des êtres plus compliqués parce qu'ils sont
plus pressés, plus occupés.
Plus pressés, plus occupés et il y a plus de pudeur. Alors après, on dit que les Tokyoïdes sont plus pudiques, par exemple, que les gens d'Osaka. Il y a aussi au Japon des différences culturelles aussi, voilà, entre les villes, hein, des caractères. Et donc, dans les campagnes, je pense que c'est plus. Les campagnes s'entend, hein, parce que ce sont des campagnes aussi parfois encore très peuplées, pas partout, mais le Japon est un pays très infrastructuré, donc on se sent, il faut aller loin pour se sentir dans une nature vierge en tout cas, enfin qui pourrait donner l'impression d'être vierge.
Parce que bien desservie en transport aussi.
Parce que très bien desservie en transport.
Faire parler les Japonais, donc c'est le meilleur moyen d'éviter les pièges des lieux communs. Raphaël Languillon-Haussen, vous avez interrogé 23 Japonais, 10 femmes, 12 hommes, 22, 23, je ne sais plus.
La parité quasiment respectée, effectivement.
Oui. Pour déconstruire le mythe d'une société homogène, dites-vous.
Effectivement, alors c'est un peu la façon dont nous on les voit et c'est également un peu la façon dont eux se présentent, une société homogène où tout le monde pense un peu pareil, tout le monde réagit un peu pareil, où il n'y a pas de grande différence en termes de classe sociale, en termes de comportement au travail. Alors du coup, j'ai commencé l'ouvrage, effectivement, dont vous parlez, par Okinawa, c'est-à-dire par les marges. Et je pense que c'est une erreur contemporaine d'entrer dans les pays ou d'entrer dans les sujets par les centres. On observe beaucoup, beaucoup plus de choses en commençant par les marges, en particulier...
le lieu le plus éloigné du centre.
Exactement. C'était Okinawa, c'est un petit archipel à plusieurs milliers de kilomètres au sud de Tokyo, qui n'est pas si loin que ça de Taïwan, et qui a été en particulier colonisé par les Japonais dans une période assez récente, et qui a, c'est un lieu de rencontre. Alors un lieu de rencontre entre la population locale, d'avant la colonisation, les Japonais, et puis les Américains qui ont quelques bases militaires là-bas. C'est un lieu de brassage, et c'est là, je pense, où peut se voir effectivement un certain nombre d'enjeux sociaux du Japon contemporain.
Ouais, alors évidemment, après, vous avez sillonné pas mal de lieux, mais comment vous avez choisi vos personnages avant de les interroger ?
Je suis parti des clichés et je me suis dit quel personnage représente le mieux le cliché et peut le mieux le déconstruire dans le même mouvement. Et effectivement, le deuxième interview, c'est un salaryman tout à fait normal, mais qui...
Un salarié.
Oui. Alors, c'est un mot japonisé depuis l'anglais, en fait. C'est un japonisme. Et c'est un salarié typique, mais qui n'a pas respecté l'emploi à vie, la progression à l'ancienneté, qui a craqué à un moment donné de sa vie de salarié, qui a démissionné et qui a essayé de trouver une autre façon de survivre dans cette société complexe.
Est-ce que se confier, dire ce que l'on pense quand on est japonais, ça ne va pas de soi dans la culture japonaise, non ? Puisqu'il y a cette culture de ce qu'on veut laisser paraître et de ce que l'on pense réellement.
Alors, effectivement, on peut avoir l'impression très forte qu'on n'aura jamais accès à la vraie personne du japonais ou de la japonaise qu'on peut avoir en face de soi. Moi, je l'ai vécu dans des relations de travail avec des homologues de travail où j'avais l'impression...
Avec des gens qui faisaient le même métier.
Qui faisaient le même métier.
Des documentaires télévisés.
Exactement, des gens, je dirais, vraiment du même domaine. Et on se rend compte finalement, via l'anglais, parce que c'était notre lingua franca, que... C'est toujours plus compliqué qu'on ne le pense et que, en fait, les différences culturelles sont toujours là. Mais pour revenir à votre question, je pense que moi, ça a été ma surprise, en tout cas, de journaliste et de documentariste ces trois dernières années, c'était de découvrir que les Japonais, alors que les Japonais eux-mêmes, avec qui je travaillais, nous avaient averti, ça va être compliqué, les Japonais ne vont pas se livrer, ce ne sont pas des New-Yorkais, ce ne sont pas des Parisiens.
C'est ce que j'allais dire, ce ne sont pas des Américains qui ont la passion de la confession, quand même.
Mais, eh ben, je pense que ils se sont beaucoup
contredits. Parce que vous avez fait ce même exercice aux États-Unis.
Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est pas très compliqué de faire parler
les Américains.
Les Américains ou les Français. De manière générale, sont des peuples plutôt bavards. Je pense qu'ils ont envie de se livrer. Mais les Japonais ont aussi beaucoup de choses à dire. Et je pense que peut-être est-ce aussi le fait d'être honoré par une présence médiatique étrangère. Les Japonais qu'on a rencontrés se sont livrés avec beaucoup moins de pudeur qu'on ne pouvait l'imaginer et nous ont donné des choses vraiment très belles et pas du tout surfaites. Je pense cette jeune femme à Hiroshima qui nous parle de ses grands-parents et du travail de transmission de mémoire qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle le ressent évidemment avec beaucoup de gravité mais sans... on est très loin de la langue de bois, on est très loin de choses comme ça.
Alors, donc, vous, Laurent Martin, vous avez séjourné à plusieurs reprises au Japon pour ce travail. Vous ne parlez pas japonais.
Pas du tout. Raphaël
Languillon-Aussel, vous parlez japonais. Vous avez vécu plusieurs années, à plusieurs reprises d'ailleurs, au Japon. Est-ce que parler la langue, ça change totalement le dialogue? Enfin, c'est une question idiote que je vous pose, mais est-ce que... En particulier pour la culture japonaise, ça change la façon de restituer la culture.
Bien sûr, puisque je pense que la langue détermine en fait la façon dont la personne non seulement se présente, mais pense et agence ses idées, effectivement. Donc, comment dire, rencontrer les Japonais en français ou en anglais va constituer un biais en soi. Alors que rencontrer les Japonais en japonais dans leur propre langue fait effectivement ressortir la façon dont eux pensent et de la façon dont eux se positionnent. Alors, on a souvent eu cette conversation avec des collègues japonais ou des collègues français japonisants. De dire, on a, malgré la très grande maîtrise que l'on peut avoir du japonais, on a toujours l'impression qu'on ne maîtrise pas complètement la langue, parce qu'au-delà de la grammaire, au-delà du vocabulaire, au-delà de l'énonciation, il y a des implicites fortement culturels qu'on ne peut acquérir qu'avec une très très grande pratique, non pas de la langue, mais du terrain et des rapports sociaux, et c'est là le plus difficile, certainement.
Quelle est la place du paysage dans cette culture japonaise? Parce que tous les deux, vous êtes l'un géographe, l'autre documentariste. Vous avez choisi les lieux où vous êtes allé. Vous êtes allé donc pas forcément dans le Japon des villes. Et on a l'impression, via votre travail, que le paysage fait partie de l'âme japonaise.
Je pense que... Peut-être que le paysage, c'est l'âme japonaise. En tout cas, historiquement, les campagnes, donc ces paysages très, très cultivés, très jardinés, ont, je crois, beaucoup servi à la construction du Japon urbain. Et d'ailleurs, les urbains, plus ou moins, mais ont toujours cette nostalgie du village natal, de ce qu'on appelle le Furusato, je crois, si j'ai bien retenu le terme, qui est effectivement cette communauté villageoise au sein de ce paysage, alors classiquement de rizières, donc très ordonné, encore une fois, très, très beau.
Très avec, travaillé, très, très cultivé.
Très travaillé, très cultivé, très jardiné, qu'on a essayé ensuite de d'importer en ville, et qui est toujours entouré de montagnes, puisque le Japon... un peu une montagne. Hein. Donc, c'est le paysage est fondamental.
Et quelle est la place de l'eau dans la vie des Japonais, aussi bien d'ailleurs dans leur identité, dans leur spiritualité que dans leur vie quotidienne?
L'eau, à mon avis, c'est l'un des éléments qui fait l'âme du Japon. C'est un élément omniprésent. Alors, au niveau de la mer, bien sûr, donc l'eau salée, les rivières, les typhons qui apportent des quantités gigantesques d'eau qui permettent d'ailleurs de faire croître les riz dans les rizières. Donc, et l'eau est une pratique sociale forte. Alors je vous renvoie par exemple aux ouvrages d'Akira Mitsubayashi qui a publié en français, qui écrit directement en français.
Merci
il
n'y
a pas
le
longtemps.
Préciser.
Voilà, sur le bain japonais et comment est-ce que le bain est un moment à la fois social et intime, fort dans la vie des familles, dans la vie des groupes.
C'est ça, également familial.
Exactement.
Et le bain urbanisé, organisé, les fameux bains, mais également le bain dans des souffres d'eau chaude. On en voit il y a des très belles photos dans votre livre.
Je rebondis, Raphaël le dit très bien, l'eau dans la nature, moi c'était une découverte culturelle, c'est l'importance de la nature, enfin la dimension de la nature dans l'âme japonaise et l'importance de l'eau qui est tout le temps remerciée. C'est vrai que dans les films et dans les portraits qu'on trouve dans le livre, il y a beaucoup de gens qui travaillent de leurs mains, qui sont des artisans et qui ont un rapport avec l'eau, les riziculteurs évidemment, l'eau est sans cesse portée au nu comme l'élément fondateur et qu'il faut, sans laquelle rien n'est possible.
Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le remerciement en général. Alors évidemment, vous nous posez des questions, les voisins et les voisines, et vous avez le droit de poser toutes vos questions, même si elles peuvent apparaître désordonnées parfois. 33 1 84 22 71 71. Le Japon est probablement l'un des pays au monde qui fascine le plus aujourd'hui. Guy Roland à Abidjan pose cette question. Est-ce qu'il est vrai que dans le métro japonais, il n'est pas nécessaire de laisser sa place à une personne âgée ou handicapée ?
Alors, c'est toujours une question assez difficile. Il y a des places réservées pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, effectivement. Donc là, on est tenu de leur laisser la place. En revanche, on considère que les autres places sont pour les travailleurs, donc ceux qui sont les plus légitimes pour se reposer en début ou en fin de journée. Et donc, on peut ne pas laisser sa place, mais c'est quand même vécu comme un geste assez insultant ou irrespectueux, néanmoins.
À chacun de juger, donc. Mais chacun juge et fait le bon choix. 33 1 84 22 71 71, c'est notre numéro de téléphone. On vous donne la parole dans quelques instants pour vos questions ou vos témoignages. C'est Sakura Ohara, je ne sais pas si c'est un groupe que vous connaissez.
Non, pas tellement.
En tout cas, on parle du Japon aujourd'hui. Raphaël Languillon-Haussel, vous êtes géographe spécialiste du Japon à l'Université de Genève et vous publiez « Japonais, ligne de vie d'un peuple » où vous laissez la parole à des Japonais qui s'expriment sur la façon dont ils voient leur pays, leur famille, leur vie, leur avenir, aussi leur identité, leur intimité. Laurent Martin, vous avez publié « Au cœur du Japon, visage et paysage du Japon ». Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71. Peut-on comprendre les Japonais ? Delmas est en ligne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec nous. Bonjour Delmas.
Alors bonjour Emmanuel. Bonjour aux auditeurs des voisins.
Delmas, vous avez une question, je crois, sur la démographie.
Oui, j'ai une question sur la démographie, en ce sens que j'ai ouï dire que les Japonais ne font pas beaucoup d'enfants, voilà, un taux de natalité très faible, voilà, et puis ils ne sont pas trop aux autres cultures, c'est-à-dire on ne retrouve pas des métis japonais comme on pourrait le voir avec les Chinois, peut-être que déjà les Chinois sont déjà assez nombreux. Et j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes à faire intégrer les travailleurs étrangers, la main-d'œuvre étrangère. Alors je me dis, est-ce que, avec tous les problèmes que le Japon connaît au niveau de la diplomatie, au niveau des querelles avec ses voisins, faire des filles coréennes et tout ça, est-ce que demain, dans un futur proche, tout ça ne va pas entamer
Alors,
l'hégémonie des Japonais.
Il y a beaucoup d'aspects dans votre question, Delmas, parce que vous démarrez sur la démographie.
Je veux dire que le développement est quand même lié aux ressources humaines.
On est bien d'accord. Et on est dans un pays vieillissant. Alors, on va peut-être rappeler quelques chiffres avec vous, Raphaël Languillon. Delmas, merci en tout cas de nous avoir appelés et on va vous répondre le plus précisément possible. Le Japon est un pays vieillissant de manière préoccupante.
Oui, c'est indéniable. C'est un pays vieillissant. Il va certainement perdre la moitié de sa population d'ici le 22e siècle, donc d'ici, on va dire, 80-90 ans. Néanmoins, il
Rappelons
est
à l'heure actuelle, les Japonais sont plus nombreux que certains l'imaginent d'ailleurs.
Alors, ils sont deux fois plus nombreux que
Ouais.
nous, à peu près. Hein,
Donc 123 millions, quelque chose comme
environ
ça.
quelque chose comme ça. Et nos courbes vont se croiser entre la France et le Japon, hein, certainement dans la deuxième moitié du 21e siècle. Et puis, on sera certainement plus nombreux à la fin de ce siècle qu'eux.
Parce que natalité en berne, 1,44
Alors, c'est effectivement très faible,
enfants
mais
par femme.
il est faux de dire que les Japonaises et les Japonais ne font plus d'enfants. Ils en font. Ils le font juste de plus en plus tard. Et donc, forcément, ils en font de moins en moins. Donc, la question, ce n'est pas de savoir s'ils font des enfants, mais s'ils font un deuxième enfant une fois qu'ils en ont eu un. Et bien évidemment, ces causes sont multiples. De plus en plus de femmes travaillent, bien sûr. Il n'y a pas de politique véritablement nataliste. Il y a très peu de choses, par exemple, pour les infrastructures publiques, les crèches ou ce genre de choses. Et puis, la vie coûte très cher, un enfant coûte très cher, l'université coûte très cher, mais également le lycée, le collège, l'école primaire, et ça, ce sont des choses évidemment que les Japonaises et les Japonais prennent en compte avant de se lancer dans le deuxième, voire le troisième enfant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Japonais ont conscience que leur pays est clairement menacé par sa démographie.
Alors, oui. Je pense qu'ils en sont conscients, ils en ont conscience effectivement. C'est une question à la fois politique et sociale, et la réponse n'est jamais individuelle dans ce genre de situation, même si on a bien conscience que ne pas faire deux ou trois enfants participe à l'affaiblissement démographique et donc politique et donc économique et donc géopolitique du pays, mais bien sûr la réponse est collective.
Laurent Martin, quand on regarde les photos de votre livre, alors c'est vrai qu'il y a surtout des paysages, mais qui sont ponctués de personnages et qui ont souvent les cheveux blancs, en effet. On voit peu de jeunes sur vos photos.
Alors, il y en a quelques-uns quand même. On a essayé de panacher pour qu'il y ait non pas la parité comme chez
Et
Raphaël
le
entre hommes et
nombre de
femmes, mais...
jeunes a été divisé par deux par rapport au milieu des années 90.
Oui, non, non, mais tout ce que dit Raphaël est passionnant dans le sens où le destin de ce pays est effectivement assez unique démographiquement parlant et on. C'est absolument dingue de se dire que ce pays va perdre la moitié de sa population, qu'il a perdu 1 million d'habitants en 5 ans. C'est des phénomènes qui sont.
Alors, quand on se pose la question pourquoi alors vous disiez manque de politique publique, mais dans le fond, pourquoi les Japonais ne veulent plus d'enfants? Il faut plutôt se poser la question pourquoi les femmes ne veulent plus d'enfants, hein, finalement. Qu'est-ce qu'elles disent dans vos portraits, dans les dialogues intimes que vous avez noués avec elles?
Alors, la vie des jeunes femmes est assez difficile parce qu'elle l'est professionnellement, elle est également socialement assez incertaine. Alors, bien sûr, le schéma de on se marie, l'homme travaille dans une entreprise qui assure son emploi à vie, puis sa progression à l'ancienneté, puis sa retraite, etc. Et la femme garde les enfants à la maison est de plus en plus fragilisée parce qu'il est de moins en moins désiré, il est de moins en moins possible aussi au niveau économique puisque le Japon est entré dans une phase de, alors pas vraiment une crise, mais disons de restructuration intense. Et donc, évidemment, la question se pose de quel modèle familial on souhaite construire. Et là, pour l'instant, on a effectivement 10, 20, peut-être 30 ans de battement avant d'avoir une réponse collective stable qui permette de redonner un peu de mouvement démographique à ce pays.
Donc, c'est finalement l'inquiétude qui est à l'origine du non-désir d'enfant.
Je pense, effectivement,
Ouais.
une inquiétude sourde.
Alors, on a beaucoup de questions d'auditeurs sur le monde du travail, vous vous en doutez, hein. Peut-être d'ailleurs que les auditeurs, nous tous qui ne connaissons pas le Japon, peut-être que, est-ce qu'on ne se fait pas une montagne de cette diversité par rapport à la conception du travail? Je ne sais pas, mais vous allez y répondre probablement au fur et à mesure. Camille nous pose la question suivante. Elle est à... Non, c'est un voisin, pardon. C'est un voisin, il est à Paris, il a 30 ans. La discipline du Japon est-elle à l'origine de sa réussite économique?
Alors, oui et non. Oui, bien sûr, il y a une forme d'effort collectif, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a dû se reconstruire. Alors, il s'est reconstruit effectivement de façon extrêmement rapide et extrêmement impressionnante. Néanmoins, attention au miracle japonais, c'est un construit idéologique, hein. On est dans la période de guerre froide, le Japon était l'ennemi numéro un, et puis il devient l'ami numéro un en Asie avec la guerre de Corée de façon très rapide, il devient la base arrière des opérations américaines, à la fois militaire mais également idéologique, et devient le modèle de la réussite capitalistique. Et donc évidemment, le miracle japonais, c'est d'abord une construction idéologique occidentale.
Comment vous avez vécu, Laurent Martin, le fait de travailler avec des équipes japonaises, hein, pour vos documentaires filmés, photos? Parce que Vous disiez, il y a le même, vous exerciez le même métier, mais pas de la même façon, et pas surtout avec le même type d'équipe. Les Japonais étaient beaucoup plus nombreux.
Non, c'est vrai que, à l'image de leur population encore actuellement, ils sont. On peut avoir une impression d'une multitude, notamment. Dans le monde de l'audiovisuel ou en France, on est plutôt à l'économie. Au Japon, nous, on a travaillé avec un grand média qui s'appelle NHK, qui est le seul groupe de télévision publique, qui est très gros.
L'équivalent de la BBC, on pourrait dire.
Oui, l'équivalent de la BBC. Et donc, ils ont effectivement une force de frappe importante. Et donc, les là où nous, on peut être 2-3 personnes, eux sont facilement 5 ou 10. Et effectivement, on ne travaille pas de la même façon. Et on peut
pour
avoir
parler plus clairement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous, je pense qu'on travaille plus rapidement aussi, parce qu'on a des contraintes budgétaires plus importantes en France, etc. Donc, j'ai envie de dire, de manière très humble, on travaille vite et bien. Le japonais a besoin de prendre son temps pour différentes raisons, notamment parce que pour des aspects aussi d'accueil, quand on se rend chez les personnages. Le personnage attend, il y a des échanges de respect, de courtoisie, etc., qu'il faut intégrer dans les temps de tournage, etc. Et les temps de tournage ont tendance à s'allonger un peu. Voilà, parce qu'en France, on va être, par exemple, plus directement dans la situation. On n'aura pas besoin de passer par des phases comme ça d'approche de courtoisie qui sont plus...
On donne la parole à une auditrice. Beaucoup de nos auditeurs sont fascinés par le Japon. Je le disais, Ren a 22 ans. Elle est au sud-ouest du Cameroun, à Boya. Bonjour, Ren.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en master en traduction, côté langue anglaise, côté langue espagnole, mais vous êtes fascinée par le Japon. Comment ça se fait, Ren?
Quand j'étais toute petite, j'avais l'habitude de regarder des animés, des mangas japonais.
Oui.
Et oui, il arrivait parfois qu'on chante les génériques comme ça à l'oreille.
Mm-hmm. Et donc?
Et donc? J'ai commencé à m'intéresser un peu, on va dire quoi, au background, non, la création des mangas, la culture de ceux qui produisaient ces dessins animés.
Et du coup, maintenant, vous regardez, vous écoutez des médias, vous regardez des chaînes de télévision japonaises avec des programmes en anglais?
Oui, c'est ça. NHK World, pour être plus précis. Oui.
Mm-hmm. Alors, vous avez des questions à poser à nos invités, parce que vous n'êtes jamais allé au Japon.
Non, jamais, pas encore.
Pas encore, c'est votre rêve, c'est ça?
Pas mon rêve, mais ça me plairait bien d'y aller.
Ouais. On vous écoute, Ren, pour vos questions.
Ok, bonjour à tous les invités.
Bonjour.
Bonjour.
J'aimerais poser deux questions. La première concerne les employés. J'ai lu dans un article de Matthew McLahan que les employés japonais ont souvent tendance à partir après leur patron. J'aimerais savoir pourquoi, parce que même si, chez nous, on a l'habitude de rentrer quand on a terminé le boulot, quoi.
Oui.
On n'a pas besoin d'attendre que le patron s'en aille ou pas que ce soit, c'est pas indispensable.
Il y a une autre question aussi sur le travail, Ren?
Oui, une deuxième question, la dernière. J'ai également rencontré dans mes lectures des textes qui disaient que les Japonais ont souvent aussi tendance à anticiper sur leur programme annuel. C'est-à-dire que s'ils ont un programme sur 12 mois, ils auront tendance à le boucler sur 6 mois pour pouvoir anticiper. Et puis, prendre le programme de l'année prochaine. J'aimerais savoir si c'est vrai et si oui, pourquoi.
Ça vous semble surprenant. Merci Ren, en tout cas, pour votre appel. Alors, sur la façon de travailler, sur la notion de la performance, sur aussi la codification de l'emploi du temps, qu'est-ce qu'on peut répondre à Ren, Raphaël Languillon?
Alors, c'est vrai que les façons de travailler des Japonais et des Français sont radicalement différentes. Alors, Laurent a dit, effectivement, ils prennent plus de temps. Ils prennent plus de temps parce qu'ils sont d'une part plus nombreux. Donc, coordonner ces masses de gens prend mécaniquement plus de temps, bien sûr. Et puis surtout, les décisions sont collectives. Le travail est collectif. Il n'y a pas cette notion de l'individu innovant, du génie créateur qui va pousser l'entreprise vers le haut, un peu comme aux États-Unis ou comme chez nous. C'est le génie est collectif. Et donc, effectivement, ça demande de se rencontrer
Vous dites collectif, mais et hiérarchisé aussi.
Collectif et hiérarchisé, oui. Mais le rôle de la hiérarchie, c'est de s'assurer que la base travaille confortablement et que travaille efficacement ensemble et au même rythme. Donc il n'y a pas de place pour le génie individuel. Enfin, il y a des génies individuels. Je ne dis pas que leur intelligence ne peut pas être brillante, effectivement. Mais disons que dans l'organisation du travail, le génie individuel doit se fondre dans un génie collectif. Et donc effectivement, ça demande des structures d'organisation un peu différentes.
Et pourquoi il faut partir après son patron ?
Je ne suis pas certain qu'il faille partir après son patron. Je pense que le patron, c'est un peu comme le capitaine du navire, c'est le dernier à couler.
Ouais. C'est une idée reçue, ça, finalement.
Un peu peut-être, je pense.
Et pourquoi, si on a 12 mois pour rendre un projet, il faut absolument exploser les objectifs, être plus performant que les objectifs.
Disons qu'il faut faire les choses quand on peut les faire et quand il faut les faire. Donc si on peut les faire un peu avant, ben on les fait avant.
Capi nous pose une question aussi, il est à Ottawa. Est-ce vrai que les Japonais dorment beaucoup pendant leur temps libre, parfois 16 heures d'affilée? Est-ce un hobby, comme le disent ici mes collègues qui voyagent beaucoup? Ça, c'est la vision des Canadiens sur les Japonais quand ils vont travailler au Japon.
Alors, le sommeil, c'est très amusant. Moi, on m'a dit, écoute Raphaël, là, il est 21h, va te coucher. Je sais que les Français sont le peuple qui dorment le plus sur la planète. Je pense que ces critiques ou ces idées reçues sur le sommeil, tous les peuples les partagent et chaque peuple a son français, finalement.
D'accord. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on est en ligne avec un YouTuber français installé à Tokyo.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
On est en ligne avec Amine Abbès, en direct de Tokyo. Bonjour Amine Abbès.
Bonjour.
YouTubeur français, vous vivez à Tokyo depuis 3 ans, où vous travaillez dans le marketing digital et vous avez lancé une chaîne qui s'appelle Japania, qui est une mine d'infos sur la vie quotidienne pour les Français ou les francophones qui s'intéressent au Japon, soit parce qu'ils projettent d'y vivre ou qu'ils y vivent déjà, je ne sais pas. Mais vous faites partie de cette génération qui a découvert le Japon par les dessins animés à la télévision, comme nous le disait Rennes tout à l'heure, qui nous appelait du Cameroun.
Alors effectivement, j'ai été bercé dans ma jeunesse par tout ce qui était Club Dorothée, Dragon Ball, etc. Donc ça a été ce qui m'a poussé à m'intéresser vraiment à la culture japonaise. Donc de fil en aiguille, j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos, des documentaires, etc. Et puis j'ai eu l'occasion de venir au Japon, de découvrir un petit peu comment c'était en vrai. Et puis je suis tombé sous le charme.
Vous avez trouvé du travail facilement, Amine ?
Alors, dans mon cas personnel, ça s'est passé de façon assez fluide. J'ai trouvé mon travail au bout de quelques semaines. Alors, ça dépend beaucoup en fait des diplômes, des compétences en anglais, en japonais, etc. Donc, personnellement, dans mon cercle d'amis proches, j'en connais qui ont eu un peu plus de mal pour trouver un travail. Pour d'autres, ça allait beaucoup plus rapidement. Mais généralement, quand on fait des études longues, on a plus de facilité à trouver un travail au Japon.
Quel est votre métier? Quelles sont vos compétences, Amine?
Alors j'ai été diplômé d'une école de commerce, donc je suis allé jusqu'en bac plus 5 avant de me décider à venir au Japon en fait. J'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire, ça s'est très bien passé au Japon et donc ça m'a donné envie de venir poursuivre cette aventure en finissant mes études.
C'est ça, et avec des compétences dans le digital, si j'ai bien compris. Vous travaillez dans une entreprise américaine?
Voilà, c'est ça. J'ai la chance, je dirais, de ne pas travailler dans une entreprise japonaise, parce que bon, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup le Japon et sa culture, je reste assez critique par rapport à des choses de la vie de tous les jours que je peux observer.
Alors ça veut dire que vous travaillez dans une entreprise américaine, donc qui ne travaille pas avec des méthodes japonaises, hein?
C'est ça, c'est un management plus à l'occidental, je dirais.
Mais avec des employés japonais, néanmoins.
Alors, il y a quelques employés japonais. Globalement, on est quand même majoritairement étrangers. Donc, d'où le fait qu'on ait ce management à l'occidental. Donc, beaucoup plus de flexibilité qu'on puisse en trouver dans les entreprises japonaises, qui sont très, très archaïques dans leur façon de procéder. Comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, je reviens juste vite fait là-dessus, sur le fait que les employés, parfois, soient obligés de rester après... soit obligé d'attendre justement le départ de leur boss.
C'était une question d'une auditrice, d'un auditeur, oui.
Ouais, c'est ça. Et en fait, globalement, c'est que c'est vraiment... les Japonais vont porter un masque au travail. Il y a vraiment cette importance du paraître. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va qui va essayer de renvoyer une image positive dans son entreprise, va rester plus longtemps, etc., même s'il ne va pas être forcément productif, hein, puisque quand on regarde les stats mondiales, etc., vous voyez que la productivité au Japon, c'est l'une des plus basses au monde. Donc, ouais.
Dans la vie de tous les jours, quels sont, selon vous, puisque vous vivez maintenant au Japon depuis 3 ans, quels sont les avantages et les inconvénients de cette rigidité dont vous parliez, de cet aspect codifié de la vie ?
Il y a néanmoins de nombreux avantages. Hein. Par exemple, on va prendre le cas tout simple des transports en commun. Si on vous indique que le train va arriver à 20h30, si vous arrivez à 20h31, vous êtes sûr de louper votre train. Donc tout est planifié, tout est codifié. Il y a des règles, tout est établi, donc vous savez comment ça va se passer. Et donc le désavantage, c'est qu'une fois que l'on s'écarte un peu du chemin qui est préétabli, eh bien on est un peu divergent et on a de se faire pointer du doigt, etc.
Et justement, alors comment vous naviguez entre ce que veulent montrer les Japonais et ce qu'ils pensent vraiment ?
Ah, c'est un véritable casse-tête, puisque on a beau parfois se faire des amis, penser, savoir comment est-ce qu'ils vont penser, réfléchir, etc. Eh bien, vous avez toujours ce masque qui est là, qui met du temps à tomber, en fait.
Mais y compris dans les jeunes générations, parce qu'Amine, vous êtes jeune ou vous avez quel âge ?
J'en ai 27 ans.
C'est ça. Donc, vous fréquentez des jeunes. On parle quand même beaucoup d'une jeunesse mondialisée. Il y a ce gap culturel entre vous ?
Ça reste quand même bien présent. Hein, puisque, vous savez, il y a cette communication à deux vitesses. Vous avez beau parler le japonais, en fait, ils vont toujours vous considérer comme un étranger. Et tant que vous n'avez pas, comment dire, acquis ces us et coutumes, ce savoir-être à la japonaise, eh bien, ils vous considéreront toujours comme un étranger et donc ils vont toujours avoir ce masque avec vous. À partir du moment où vous serez capable de communiquer avec eux en japonais, que vous montrez que vous maîtrisez bien ces codes-là, eh bien, ils vont peut-être s'ouvrir plus facilement, ils vont peut-être communiquer, montrer leur véritable caractère.
Alors, peut-on comprendre les Japonais ? Qu'est-ce que vous répondez au bout de 3 ans ?
Alors, je vous dis oui, si vous faites un effort aussi de votre côté.
Bon, on pourrait le dire partout.
Comme je vous disais.
Oui, on pourrait le dire dans tous les pays du monde, hein, finalement. Ça s'appelle l'intégration. Hein.
Au final, oui, les Japonais sont comme tout le monde au final. Hein, tant qu'on fait. Alors, il y a la communication, il y a deux vitesses à la communication. Il y a la communication verbale, hein, donc c'est être vos connaissances en japonais, est-ce que vous êtes capable de le lire, de l'écrire, etc. C'est super important parce que le Japon, même à Tokyo, si vous ne parlez qu'anglais, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne vont pas vous être accessibles, qui vont être difficiles d'accès. Et puis, il y a ce qui est tout aussi important, c'est la communication non verbale. Et donc, à partir de là, c'est. Montrer en fait que vous comprenez comment est-ce que ça fonctionne, c'est important dans le monde du travail, par exemple. En France, arriver à l'heure, c'est important. Au Japon, arriver à l'heure, c'est être en avance. Donc ce sont plein de petites choses comme ça qui font que si vous ne les connaissez pas, si vous ne les maîtrisez pas, vous risquez de choquer ou de déranger un peu le japonais. Donc, voilà.
Merci Amine Abbès, il faut vous retrouver sur votre chaîne Japania, hein. C'est très sympa de vous voir déambuler dans les rues en expliquant, donnant beaucoup d'informations sur la vie quotidienne. Merci d'avoir été en ligne avec nous, merci pour votre disponibilité en direct de Tokyo. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le sentiment qu'au bout de 3 ans, on continue, Raphaël Languillon-Houssel, d'être encore dans le cliché par rapport aux Japonais ou pas, où on en sort et ça devient de plus en plus, cette culture devient de plus en plus complexe à comprendre, plus on la connaît.
Alors plus on la connaît, plus elle est complexe, ça c'est évident, et plus on se rend compte que de toute façon on ne pourra jamais se transformer en japonais, alors c'est la raison pour laquelle personnellement je joue la carte de l'étranger. Je ne suis pas du tout japonais, je n'ai aucune prétention à le devenir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de très bons amis là-bas, ça ne veut pas dire que j'ai une famille d'accueil qui me considère quasiment comme un membre à part entière, donc je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter, avec qui la communication passe très bien, les sentiments sont, on va dire, sincères et honnêtes, mais néanmoins, à aucun moment je ne deviendrai japonais, c'est sûr.
Justement, vous parliez de famille d'accueil. On a un auditeur qui nous appelle, sénégalais, qui vit dans une famille d'accueil japonaise à Tokyo. Bonjour Maramané.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Merci de nous appeler au standard 33 1 84 22 71 71. Alors vous, non seulement le Japon vous intéresse, mais d'autant plus que vous vivez sur place, vous êtes originaire de Ziguinchor, de Casamance, donc oui. au Sénégal, vous avez 30 ans, Marmané, et vous avez obtenu une bourse pour étudier la langue et la culture japonaise à l'université de Soka, au Japon. C'est une bourse que vous avez obtenue du gouvernement japonais ou sénégalais?
En fait, c'est une bourse d'une université privée qui se trouve ici à Tokyo. Et j'avais bénéficié quand je faisais mon master 2 en anglais au département d'anglais à la faculté des sciences humaines de l'université Shirata de Dakar. Mm-hmm. C'était en 2014 et je suis parti au Japon. Mm. Aujourd'hui, je suis au Japon 4 ans.
4 ans. Pourquoi le Japon donc?
Ah oui, merci pour cette question. J'avais la possibilité d'être en Chine. J'avais d'ailleurs la bourse de la Chine. Mais quand j'ai obtenu la bourse avec mérite, cette bourse pour venir au Japon, puisque je lisais trop les articles provenant de l'Asie, j'ai été très tôt fasciné par la culture asiatique, plus précisément celle du Japon. Je me disais alors, il faut que je me précipite pour remplir les conditions nécessaires pour aller au Japon. Oui. Et je suis venu au Japon parce que je suis passionné par la culture japonaise, par leur discipline et leur méthode de travail. Oui.
Et comment ça se passe dans la famille d'accueil où vous vivez, Maramané?
Oh, au fait, c'est une famille, je peux dire, exceptionnelle parce que moi, je vivais dans mon dortoir avec mon âme après avoir fait mes 2 ans à la fac. J'étais parti louer à côté aussi. Et après, j'ai eu une copine qui m'aidait à apprendre la langue. On est devenus amis comme ça. Et ben, je suis devenu dans leur famille d'accueil où je passais pratiquement tous mes week-ends. Mmh. C'est une famille abordable. La maman, le père, tout le monde m'aime. Même si je suis absent de Tokyo de quelques jours, parfois ils s'inquiètent de m'appeler. Où es-tu? Pour que tu viennes.
C'est vraiment une famille d'adoption. Aller. Alors, Maramané, forcément, je vais vous poser la question que tous les auditeurs voudraient vous poser. Est-ce que vous sentez parfois victime de racisme au Japon en étant noir?
Le mot racisme, même en général, n'existe pas dans les vocabulaires japonais. Non.
Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, il faut dire aussi, non, quand même, Maramané?
Oui, c'est vrai. Mais les Japonais ne sont pas racistes. Au contraire, ils aiment les étrangers. Moi qui ai voyagé dans 11 pays du monde, ce que j'ai comparé, surtout en Asie, 8 pays en Asie, je peux comparer le Japon à beaucoup de pays asiatiques. Le Japon est loin d'être un pays raciste.
Maramané, restez en ligne avec nous. Alors, je disais, peut-être aussi le racisme n'existe pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Ceci dit, on pourrait largement dire qu'il y a, notamment en France, des régions où il n'y a pas d'étrangers, où il y a pourtant beaucoup de racisme. Donc, c'est un peu précipité de dire ça. Mais par rapport à la politique de l'immigration aujourd'hui, Raphaël Languillon, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le Japon est un pays aussi fermé qu'on l'a dit jusqu'à maintenant, sachant que les Japonais savent que leur population vieillit inexorablement et qu'elle diminue de manière préoccupante. Quelle est aujourd'hui la politique d'ouverture du gouvernement japonais?
Alors, c'est vrai qu'il existe un rapport asymétrique au reste du monde entre le Japon, qui est beaucoup plus à l'écoute de ce que le monde est, et puis qui laisse un peu moins se découvrir. C'est difficile de pénétrer au Japon, y compris pour les entreprises, etc. Effectivement, ça vient d'une culture de la fermeture. Hein. Le Japon a été un pays fermé, quasiment fermé, pendant plusieurs siècles. Sous la période Edo, du shogun Edo, et qui s'est rouvert de façon forcée par les Américains. Donc le Japon, quand il s'ouvre, généralement, c'est de façon brutale et c'est depuis l'extérieur. Et là, on va dire de façon un peu exceptionnelle, peut-être pour la première fois de son histoire, il s'ouvre de lui-même en raison de déséquilibres internes qui le forcent en fait à aller chercher à l'extérieur des palliatifs à ses déséquilibres et puis à ses faiblesses. Et la semaine dernière a été votée effectivement une nouvelle loi sur l'immigration qui vise à faciliter l'arrivée de migrants. Alors c'est une immigration choisie, bien sûr. C'est également une immigration que je qualifierais peut-être, alors à voir comment ça s'est mis en place, mais de sauvage, un peu à la Dubaï, c'est-à-dire où on va faire venir la main-d'œuvre uniquement pour sa fonction de main-d'œuvre, sans volonté de l'intégrer, sans volonté forcément de bien la traiter. Hein. On va voir comment se passe l'assurance maladie, on va voir comment se passent les vacances, mais bon, ça risque d'être problématique.
Ouais. La population, juste une petite précision, en seulement 5 années, la part des étrangers dans la population active nippone est passée de 1 à 2%, ça reste tout petit, mais tout de même, il y a vraiment eu une nouveauté ces dernières années, et le ratio va a priori continuer de croître au fil du déclin démographique du pays, c'est ce qu'on...
Certainement. Oui.
Ouais. Non, je voulais parler des Coréens qui représentent, je crois, la seule grande minorité étrangère au Japon, et je crois qu'ils ne sont pas très bien traités. Et les Japonais, par exemple, avec qui j'ai travaillé, ne me l'ont pas caché. On dit que c'était un sujet vraiment pas de gloire de considérer.
Les Japonais méprisent beaucoup les Sud-Coréens, non?
Oui, alors c'est pas de racisme. Je pense qu'il y a un nationalisme plus qu'un racisme, parce que je pense que le Japonais ne sait pas ce que le racisme, tout simplement s'il n'y a pas d'étrangers. Effectivement, c'était un pays qui a une culture de l'isolement. Il l'a été, effectivement, pendant des siècles. Donc l'étranger, c'est à la fois c'est perturbant parce qu'ils sont très hospitaliers. C'est-à-dire, toute personne qui va au Japon se sent très bien accueillie, de manière générale, en tant qu'étranger. Après, y vivre, c'est tout de suite une autre démarche. Et y être un étranger d'Asie, c'est encore autre chose, je pense. Effectivement, oui, il y a beaucoup de...
Parce que là, on parle de l'accueil, c'est-à-dire de la culture de la politesse. Mara Mané, vous évoquiez vraiment un accueil du cœur, là. Hein, c'est la façon dont vous le vivez à l'heure actuelle à Tokyo, en tant qu'étudiant sénégalais au Japon.
Oui, vraiment, ils sont sympas. L'hospitalité, c'est le Japon. La manière dont on vous accueille dans les convenience stores, c'est-à-dire dans les supermarchés, vous sentez nettement que vous êtes en sécurité. Et ça vous rassure, la manière dont on approche les foreigners, c'est-à-dire les guiding. Vous vous sentez nettement que votre vie sociale sera stable au Japon. Il faut essayer d'aller dans un magasin ou un community store. C'est là-bas où vous pouvez juger quel genre de société nous avons ici au Japon.
Ouais.
Ils sont sympas.
Ouais, alors, c'est intéressant, vous parliez des employés des magasins. C'est vrai que le magasin donne un aperçu d'une société, mais en même temps, on a bien des employés qui sont payés pour avoir une attitude tout de même. Hein, donc, il ne faut pas l'oublier. Mais Mara Mané, vous avez un visa d'étudiant à l'heure actuelle ?
J'avais un visa d'étudiant. Quand c'est fini, je viens de décrocher un boulot. Je travaille présentement. Maintenant, je suis un travailleur régulier ici au Japon.
Et vous travaillez dans quoi, Mara Mané?
Je travaille dans une compagnie qui fabrique des pièces détachées de voitures et des heaters, c'est-à-dire des chauffements qu'on utilise dans les chambres.
D'accord. Vous vous projetez au Japon dans les années futures?
Oui, j'y pense après.
Merci de nous avoir appelé en tout cas, Mara Mané. On a une dernière question d'un auditeur, existe de Philippe qui nous appelle de Lomé. Je vais lire sa question, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il existe des couples mixtes au Japon? Comment vivent-ils dans la société? Comment sont-ils perçus? Quels sentiments ont les Japonais de ces couples mixtes?
Alors, il en existe effectivement de plus en plus, c'est vrai. La question se pose moins pour la vie du couple que pour la vie des enfants. Les enfants à moitié japonais, à moitié étrangers, alors comment est-ce qu'ils s'intègrent? Est-ce qu'ils arrivent à avoir les codes ou est-ce qu'ils vont être victimes d'une sorte de discrimination? Ça, c'est un enjeu à la fois collectif et puis c'est aux parents d'être attentifs.
Laurent Martin, dernière question. Vous, quelles sont parmi les rencontres que vous avez faites? Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus frappé? Vous qui n'êtes pas un spécialiste du Japon, contrairement à Raphaël Langlois.
C'est compliqué.
Il reste quelques secondes.
Non, moi j'ai aimé, je parle souvent d'eux, mais parce que vous parliez de jeunesse justement, c'est ce petit couple à Hokkaido qui a quitté Côte Tokyo.
Pour retrouver la terre.
Pour retrouver la terre, ouais. Parce que même si les campagnes se vident complètement au Japon, ça c'est un fait, il y a aussi un mouvement quand même, comme partout, pour y retourner. Et ce jeune couple, à peine 30 ans, ils sont partis au fin fond d'Hokkaido pour faire du fromage. Il fallait le faire.
Merci à tous les deux, Raphaël Anguillon au CEL, vous publiez Japonais, ligne de vie d'un peuple aux éditions Henri Dougier. Merci à vous, Laurent Martin, au cœur du Japon aux éditions du Chêne. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation comme chaque vendredi. Dans chaque vendredi, on parlera des adolescents. À demain.